This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Afrique du Sud et en Louisiane, pardon, ce sera ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Trump à la Maison Blanche, notre rendez-vous du lundi en direct de Washington avec Philippe Randé désormais. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur le Pakistan, tout de suite le Venezuela.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Revenons sur quelques étapes. D'abord, une crise économique d'une insondable profondeur qui débouche sur des pénuries de toute nature, y compris pour les produits de première nécessité. À partir de là, et au nom du droit à la désobéissance civile, l'opposition se met à manifester contre le pouvoir de Nicolas Maduro, le successeur d'Hugo Chavez. Depuis le mois d'avril dernier, la répression de ces manifestations par les forces de l'ordre a fait 75 morts. Jeannette Abel, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, école des hautes études de l'Amérique latine, 75 morts parmi les manifestants. Comment en est-on arrivé à ce niveau de violence ?
Écoutez, la crise est dramatique et j'ajoute qu'on ne voit pas très bien comment on va s'en sortir. Le premier élément, vous l'avez souligné, il faut quand même le rappeler, la toile de fond, le contexte, c'est d'abord une crise économique terrible qui est due à l'effondrement des prix du pétrole. On est passé de 130 environ dollars le baril de pétrole à 30-40. Alors, dans un pays qui exporte pour lequel 90% des exportations dépendent du pétrole et du prix du pétrole, on divise par 3. Et donc, en 2 ou 3 années, la chute du prix provoque la catastrophe, d'autant plus qu'on importe presque tout sur le plan alimentaire. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce qu'il n'y a pas que le Venezuela de ce point de vue-là. Le Tchad, je lisais récemment, l'Algérie, l'Angola, le Nigeria, enfin, tous les pays qui dépendent d'une économie pétrolière entière. Deuxième élément, il est politique et institutionnel. D'une certaine façon, on assiste à la rupture du chavisme, à la fin du chavisme.
Alors, expliquez-nous pourquoi le chavisme permettait au pays de se tenir, on va dire, et qu'est-ce qui s'est dissipé depuis ?
Je crois qu'il faut mettre en cause beaucoup d'erreurs politiques et institutionnelles de la présidence Maduro. Je rappelle quand même, sur fond de crise, parce que ce dont Chavez a bénéficié, c'est d'une conjoncture exceptionnelle, pas seulement lui, d'ailleurs d'autres pays d'Amérique latine, avec des prix du pétrole qui lui ont permis de faire une chose tout à fait remarquable, c'est-à-dire d'élever le niveau de vie des plus pauvres au Venezuela dans des proportions considérables, soulignées par l'ONU. Il n'y a aucun doute, la pauvreté s'est effondré au Venezuela, mais il a bénéficié de cette conjoncture particulière du début du 21e siècle et les prix des matières premières étaient au plus haut, pas seulement le pétrole, mais le soja et quelques autres choses. Maduro rentre, il est élu après la mort de Chavez, après le cancer de Chavez en 2013, dans une conjoncture de crise difficile, et à partir de là, je pense qu'il commet une série d'erreurs politiques importantes.
Alors, expliquez-les-nous. On a bien insisté sur le contexte économique qui vide en quelque sorte le pouvoir de sa substance, ou en tout cas de son moyen d'exercice le plus puissant. Politiquement, institutionnellement, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui se passe, je vais commencer par un bref rappel du point de vue des dates. Décembre 2015. Sur fond de crise, l'opposition, la table de l'unité démocratique, gagne les élections. Décembre 2015. Août 2016, elle réclame un référendum révocatoire. Et ce référendum révocatoire, c'est une disposition qui figure dans la Constitution, est acceptée par le Conseil national électoral. Octobre 2016, donc quelques mois, eh bien, le référendum révocatoire est reporté, la collecte des signatures, il faut un nombre important de signatures, est reportée également, au motif qu'il y a des signatures qui ne sont pas conformes. Et à partir de ce moment-là, la crise va en s'aggravant. Alors, autre chose, on passe de octobre rapidement à mars 2017, enfin à janvier 2017 d'abord, et là, la crise commence à s'aggraver malgré la médiation du pape, parce que le pape François intervient au Venezuela, demande qu'il y ait un processus de négociation entre l'opposition et le gouvernement. Là, c'est plutôt l'opposition qui s'y opposent. Mais à partir de mars et avril, les choses s'aggravent encore. Pourquoi ? Parce que la Cour suprême décide d'annuler les dispositions votées par le Parlement, par l'Assemblée nationale, où je rappelle que l'opposition est majoritaire, et d'en faire lettre morte. Et à partir de ce moment-là, au sein du chavisme, les dissensions commencent. Elles se manifestent par la procureure générale, Luisa Ortega, qui déclare publiquement critiquer ces dispositions, qu'elle considère être comme une violation de la Constitution. Et aggravation supplémentaire, d'une certaine façon, le président Maduro finalement recule et déclare que ces mesures prises par la Cour suprême ne sont pas légales et doivent être annulées. Elles sont annulées. Mais alors l'opposition rebondit sur cette situation et finalement Maduro décide en mai de convoquer une assemblée constituante pour élaborer une nouvelle constitution dont les conditions, les dispositions suscitent énormément de critiques parce qu'elles sont d'une certaine façon une remise en cause de la constitution de Chavez, celle qui avait été adoptée sous Chavez. Et donc là, il y a, si vous voulez, pour le dire en un mot, Chavez a instauré des traditions démocratiques au Venezuela, très importantes, ce référendum révocatoire. Il a été élu je ne sais combien de fois, il n'a été battu qu'une fois. Et je veux rappeler en décembre 2007, quand il est battu parce qu'il veut justement modifier la Constitution, il reconnaît sa défaite, il est battu à 51% et il déclare publiquement qu'il félicite ceux qui n'ont pas voté ce qu'il avait proposé et qu'il respectera toujours les décisions du peuple. Mais Maduro, lui, il n'a actuellement ni la légitimité de Chavez, ou du moins il a une légitimité faible, parce qu'il a été tout simplement désigné comme successeur par Chavez, c'est tout, et il a une très faible légalité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le régime est en train de changer de nature, quand on voit qu'il y a 75 morts liées à la répression des manifestations. Est-ce que, oui, vous l'avez dit, il y a eu des acquis démocratiques réels, des constitutions robustes, le droit de révocation, etc. Est-ce que là, ça change de nature ?
Écoutez, de nature, en tout cas, ça change. Et ça change effectivement de manière dramatique, parce que il est difficile d'avoir une évaluation de l'état d'esprit populaire. Je pense quand même que le soutien populaire à Chavez était immense. Mais il y a un très grand désarroi, y compris dans les catégories des gens les plus pauvres. Et du point de vue politique, on voit bien, le chavisme est en crise, il est divisé, de plus en plus de voix, maintenant il faut noter, sont critiques à l'égard de Maduro, et il a commis, je pense, au moins 4 erreurs successives qui minent maintenant son pouvoir. Et normalement, il devrait y avoir des élections en 2018, perse présidentielle. Et on ne sait pas du tout comment ces élections vont se dérouler. C'est une rupture, oui, un changement de nature. On ne va pas discuter, changement de nature ou pas, mais en tout cas, c'est une vraie rupture, effectivement.
Que demandent, Jeannette Abel, les manifestants aujourd'hui, après ces longs mois, ce cycle de crise ? On en est à quel point ?
On en est à un point très, très négatif, parce que les manifestants... Enfin, en fait, les manifestants demandent de nouvelles élections. Et ils demandent des élections qui ne soient pas conçues comme les élections que Maduro propose avec la constituante. Parce qu'il propose, c'est un peu compliqué d'expliquer ça ici, mais il propose des élections fondées sur des entités territoriales, sur des entités sectorielles. Et l'opposition en particulier considère que c'est une façon, que c'est une manœuvre. Et d'une certaine façon, je dois dire, c'est une manœuvre. Et en tous les cas, elle pouvait être... Elle renvoie à ce que Chavez avait voulu faire, et qu'il avait déjà été battu, mais elles correspondent aujourd'hui, elles ne correspondent pas aux exigences des manifestants, qui demandent donc de nouvelles élections et qui demandent le départ de Maduro. Alors, quand vous dites les manifestants, j'ajoute juste une chose. Cette opposition est extrêmement hétérogène, elle n'est pas du tout unie. Il y a des gens là-dedans d'extrême droite, ça va presque, enfin en tout cas il y a des gens de gauche, ça va presque parfois certains d'extrême gauche, et ils ne présentent aucun programme cohérent. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique que les États-Unis, la diplomatie américaine, fasse preuve d'une certaine prudence à cet égard, non seulement à cause des liens qu'elle a, du pétrole qu'elle importe du Venezuela, mais probablement les incertitudes, à cause des incertitudes sur ce que cette opposition pourrait faire une fois au pouvoir.
Pourquoi le sort du Venezuela est si difficile à traiter, à aborder en France, dans le débat politique français? C'est un sujet qui divise et tétanise.
Écoutez, parce que la gauche, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est la question que vous me posez, je crois que la gauche hésite, dans un tel contexte, à avoir un regard quand même, une partie de la gauche, enfin, hésite à avoir un regard critique sur ce qui est en train de se passer. C'est vrai que c'est difficile, parce que l'ingérence américaine est différente de par le passé, ça n'est plus coup d'état militaire, c'est ce qu'on appelle le soft power, donc il y a une vraie guerre économique, il y a les manœuvres au sein de l'Organisation des États américains, ces manœuvres sont en cours, la dernière réunion de l'OEA, de l'Organisation des États américains, n'a pas pu se mettre d'accord sur une résolution, et donc dans la gauche, une partie de la gauche française, on considère, ce qui n'est pas faux non plus, c'est que c'est un gouvernement qui est en situation de faiblesse, en situation difficile, mais que sa responsabilité n'est pas totalement engagée. C'est vrai, mais dans des marges de manœuvre incontestablement compliquées, il faut dire que la politique de Maduro n'est pas possible. Pas seulement les morts, mais parce que même en se plaçant d'un simple point de vue électoral et politique, il fait les mauvais choix. Parce qu'il ne peut pas affronter cette opposition de cette façon-là. Depuis quelques mois, il accumule des mesures qu'on ne peut pas défendre et qui, d'ailleurs, d'une certaine façon, ont renforcé l'opposition. Parce que cette opposition qui est faible, c'est une opposition, entre parenthèses, c'est une opposition quand même qui a voulu la défaite de Chavez depuis 1999. Enfin, il y a eu des tentatives de coup d'État. Enfin, quand on entend certains membres de l'opposition maintenant défendre Chavez, on a envie un petit peu de sourire par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais c'est incontestable qu'ils leur donnent des armes. Et ils leur donnent des armes parce qu'il y a un autre exemple, un dernier mot. Je pense qu'il aurait dû suivre l'exemple de Rafael Correa, du président équatorien. Quand Correa s'est rendu compte qu'il était difficile de se représenter à l'élection, qu'il y avait une vraie lassitude, qu'il était contesté par les communautés indiennes, etc., eh bien, il s'est retiré et il a laissé la place à quelqu'un d'autre, Lénine Moreno, qui a été élu de manière un peu juste, mais qui a été élu dans des conditions. Et évidemment, je pense que Correa, plus tard, cherchera à revenir. Mais en tous les cas, c'était une solution
politique
à la crise. Ça ne peut pas être une solution militaire, ni une solution répressive.
Jeannette Abel, merci. Politologue, École des hautes études de l'Amérique latine. Merci beaucoup d'avoir été au micro de France Inter.
Merci à vous.
Dans quelques instants, ailleurs dans le monde, avec Michaël Thébault, 18h30. Liam Gallagher sur Inter, 18h33.
30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Mickaël Thébault, bonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, direction l'Afrique du Sud. Gros plan ce soir sur une ville à deux visages, le Cap.
Et le Cap, la destination phare des quelques 6,5 millions de touristes qui se rendent chaque année dans le pays. Première destination touristique de tout le continent africain. Et c'est vrai qu'avec ses paysages époustouflants, ses lieux branchés, ses galeries d'art, son centre d'affaires, le Cap est légitimement devenu la vitrine de l'Afrique du Sud. Sauf que ce succès laisse de côté d'innombrables habitants dits historiques. Et vous vous en doutez, ce sont évidemment les plus pauvres, noirs et métis, majoritairement exclus de ce renouvellement urbain, chassés toujours plus loin du centre-ville à mesure que les prix des loyers s'envolent. Bonsoir Lisa Fabian, correspondante de France Inter en Afrique du Sud.
Bonsoir Mickaël.
Alors la ville a totalement changé de physionomie hein, en quelques années et le catalyseur, Lisa, a été la Coupe du Monde de football 2010.
Oui, c'est à peu près à cette époque que la ville du Cap a lancé de grands travaux de réhabilitation de son centre-ville. Une régénération urbaine qui s'est progressivement étendue à d'autres quartiers historiques plus populaires comme Beau-Cap, Woodstock ou même Sea Point. Mais à mesure que ces nouveaux développements gagnent du terrain, les habitants les plus pauvres sont expulsés, déplacés, comme l'explique Sarita Pillet. Cette jeune juriste travaille avec l'organisation locale Difuna Ukwasi.
Le problème principal, c'est le manque de logements bon marché dans la ville. La gentrification aggrave le problème à cause de la réputation mondiale du Cap où les investissements immobiliers sont très lucratifs. Les propriétaires ont tout intérêt à rénover leurs biens situés dans les quartiers ouvriers pour faire augmenter les loyers. Ça peut être grâce au tourisme avec des locations Airbnb ou en ciblant les étudiants, les jeunes actifs. Il n'est absolument pas dans l'intérêt des propriétaires de promouvoir des logements accessibles.
Une réalité hein, qui n'est bien sûr pas propre au Cap, Lisa, processus identique dans de nombreuses villes ici en Europe ou aux États-Unis.
Oui, mais l'histoire de l'Afrique du Sud rend la question particulièrement sensible puisque la gentrification accentue les inégalités raciales et spatiales héritées de l'apartheid. La question est également politique puisque la province du Cap est la seule qui est dirigée par l'opposition libérale de l'Alliance démocratique depuis 2009. Au 29 Albert Road, dans le quartier de Woodstock, 14 familles vivent les unes sur les autres dans un immeuble décrépit pour un loyer dérisoire, tout près de nouveaux lieux branchés. C'est ici que Mohamed Chahid a trouvé refuge lorsqu'il a dû quitter son logement il y a 4 ans. Il vivait de l'autre côté de la rue avec sa famille.
C'était un mercredi matin, j'étais au travail et j'ai reçu un appel. On m'a dit qu'ils étaient en train de détruire notre petit immeuble. Je me suis précipité chez moi et j'ai vu les bulldozers. Il y avait des gens à l'intérieur quand les machines se sont attaquées au toit. J'ai dû sortir ma mère, qui était en fauteuil roulant, alors que le toit pendait au-dessus de nous. J'ai filé voir mon propriétaire, je lui ai dit « S'il vous plaît, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter ça ?» Il m'a répondu que ce n'était pas de son ressort, puisque l'immeuble avait été vendu.
Assise dans son lit, une bouillotte sur les genoux, Delia, 65 ans, vit la peur au ventre depuis que les habitants de cet immeuble sont sous le coup d'une procédure d'expulsion. Durant l'apartheid, cette petite femme métisse a déjà dû quitter sa maison située dans le célèbre District 6 du Cap lorsque ce quartier a été rasé par le gouvernement raciste.
À chaque fois que nous voyons un bulldozer, nous avons peur. Aucun locataire ne se sent en sécurité, car on ne sait pas quand on va nous expulser. Je ne veux pas devoir quitter Cape Town. Donnez-moi un logement. Il y a tellement de terrains qui sont encore vides. Pourquoi le gouvernement ne peut pas construire des logements sociaux ? Même une seule pièce, je m'en contenterai.
Le sort des habitants du 29 Albert Road doit de nouveau être examiné par la justice le 29 juin. Ils espèrent repousser peut-être de quelques mois leur expulsion.
Et que se passe-t-il justement lorsque ces gens sont expulsés de chez eux pour laisser la place à de nouveaux bâtiments ?
S'ils ne trouvent pas de solution, la ville a en fait pour obligation de les reloger, sauf qu'il n'y a aucun logement social au centre-ville. Du coup, les expulsés sont envoyés à 20-30 km de là, dans des camps de fortune situés dans les immenses townships, les bidonvilles qui bordent la ville du Cap. À Blikisdorp, par exemple, 17 000 personnes vivent entassées là, dans des cabanes de tôle alignées les unes à côté des autres. Un bidonville organisé, construit par la municipalité, entouré d'une clôture. Une solution provisoire officiellement, mais Geneva vit là depuis plusieurs années déjà.
Nous qui vivions à Woodstock, nous avons perdu la bataille judiciaire contre notre propriétaire. Et donc la ville a pu nous expulser et nous jeter ici. Ils nous disaient ce sera pour 6 mois, 2 mois, mais ça n'a jamais été 6 mois ou quelques mois. Ça fait des années et des années maintenant, ça fait presque 8 ans que nous sommes là. Tout ça c'est juste une question d'argent. Honnêtement, si vous avez de l'argent, vous pouvez être au sommet, mais si vous n'en avez pas, on vous écrase.
Son ami Johan a perdu 2 de ses enfants aux mains des gangs. La prostitution, les violences armées sont le quotidien des habitants de ces quartiers très défavorisés.
Être envoyé loin de la ville, c'est dégoûtant parce que c'était comme ça qu'on gagnait notre pain. On vivait là-bas, on travaillait là-bas. Ce sont les ouvriers qui ont bâti Cape Town. Notre gouvernement est si corrompu. Dans notre constitution, il est écrit que le peuple doit gouverner, mais c'est faux. Le peuple ne gouverne pas, il ne peut rien dire.
Beaucoup de déplacés ont également perdu leur travail car le transport coûte très cher, trop cher pour se rendre au centre-ville, et il faut faire des kilomètres pour atteindre l'école ou la clinique la plus proche.
Et la colère monte d'autant plus, Lisa, que la municipalité est en train d'ouvrir de nouveaux camps dits provisoires pour accueillir les futurs expulsés. Et plusieurs organisations se sont regroupées pour les défendre en lançant le mouvement Reclaim the City, littéralement récupérer la ville.
Oui, une campagne d'occupation a été lancée il y a un peu plus de 2 mois pour dénoncer la mauvaise volonté de la ville du Cap qui préfère vendre les terrains vacants aux plus offrants plutôt que de construire des logements sociaux. Actuellement, un hôpital et une maison de soins désaffectés sont occupés par les activistes de Reclaim the City qui veulent forcer la municipalité du Cap à les convertir en habitations à loyer modéré.
Lisa Fabian, correspondante de France Inter en Afrique du Sud. Merci.
Et en bref, Mickaël, c'est un jour d'élection ce lundi en Mongolie.
Oui, élection présidentielle, 27 ans tout juste après avoir goûté à la démocratie en quittant l'orbite soviétique. Mais aujourd'hui, pour les 3 millions de Mongols, eh bien, elle a un drôle de goût, cette démocratie, car aucun des 3 candidats en lice n'apparaît judiciairement vierge. Le premier, candidat de la majorité parlementaire, est un ancien premier ministre accusé d'avoir monnayé des emplois publics contre de l'argent, de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars, en fonction du grade dans l'administration. Son rival du Parti démocrate est lui soupçonné de détenir des comptes à l'étranger, au moins 3 comptes repérés dans des paradis fiscaux. Quant au troisième candidat, il est accusé d'avoir touché un don d'un peu plus de 50 000 dollars en provenance directe de la secte Moon, 10 fois plus même selon certains détracteurs. Résumé ce matin d'un grand quotidien d'Oulan-Bator, ou oligarque, ou menteur, ou escroc, que choisir ?
De la Mongolie aux États-Unis, maintenant pour une rencontre, Mickaël, avec les derniers francophones américains.
Eh oui, car contrairement à ce qu'on entend très souvent, le Québec n'est pas, monsieur, le seul endroit d'Amérique du Nord où l'on parle français au quotidien depuis des siècles et aujourd'hui encore. Ben non, puisqu'il reste un autre bastion de la langue française. J'ai nommé la Louisiane. Bonsoir Stéphane Combe.
Bonsoir Mickaël.
Et c'est précisément d'où vous revenez pour nous ce soir.
Oui, en effet Mickaël, on parle le français depuis le XVIIe siècle en Louisiane. Et dans le très beau et ancien quartier français de la Nouvelle-Orléans, Joseph Dunn et Robert Desmarais, des francophones créoles, expliquent leur attachement à la langue française.
Moi, je peux retracer mes origines à la Nouvelle-Orléans. Jusque dans les années 1740, donc je suis, si je compte bien, la 10e génération de la famille en Louisiane. J'ai 46 ans et j'ai connu, quand j'étais adolescent, des monolingues francophones.
C'est pourquoi je parle français, parce que ma grand-mère ne voulait pas apprendre l'anglais. Et je suis le premier depuis 14 générations à parler anglais comme langue maternelle.
Ici en Louisiane, à quel moment l'anglais est passé devant le français ?
Dans les années 50.
Et c'est aussi en quelque sorte dû à la Deuxième Guerre mondiale, parce que tu avais beaucoup de gens de Louisiane qui sont allés participer à la guerre et qui sont revenus complètement patriotes américains. Et à ce moment-là, c'était la carotte sociale, c'était l'anglais. Parce que les gens qui parlaient français, pour la plupart, hein, étaient des gens qui vivaient à la campagne, qui n'avaient pas vraiment accès au rêve américain. Le rêve américain, c'était en anglais.
J'ai beaucoup d'émotions quand on parle de ce sujet. J'ai passé juif à l'université. Il était vraiment respectable d'être juif. Pas du tout respectable d'être français. Quand j'ai raconté mon épouse, je ne lui ai pas dit que je parlais français. Et elle a dit, allons à Paris pour notre lune de miel. Moi, je croyais que je ne pouvais pas parler français parce que l'État m'avait dit que ce n'était pas le français que je parlais, que c'était une langue bâtarde. Et je l'avais cru. C'était de la propagande.
Alors, autre communauté importante, Stéphane, qui parle encore le français en Louisiane aujourd'hui, en 2017, ce sont évidemment les Cajuns.
Ils sont les descendants des Acadiens exilés de force par les Anglais dans cette partie des colonies britanniques en 1755. Audrey et Maudrey George sont deux sœurs jumelles Cajuns qui défendent la langue de Molière à leur manière.
Stéphane !
Oui ?
Entre, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour les cousins et les cousines. Ça, c'est mon mari. On n'est pas divorcé parce qu'il ne comprend pas un mot de français. Et quand je l'engueule, ça marche bien. J'ai baissé le feu, mais je vais juste brasser la cuillère dans la chaudière. Si tu brasses trop le riz, c'est trop collant. Pourquoi on parle l'anglais? Notre formation était en anglais et ça va plus vite.
Et pourtant, le français, c'est votre première langue.
Oui.
À toutes les deux.
C'est l'habitude. On entend anglais toute la journée à la télé, on n'a pas de français du tout. Moi, je n'ai jamais étudié le français. Pour ça, je dis un hôpital, deux hôpitaux. Un cheval, deux chevaux. Un œuf. Les Cajuns disent les haricots au lieu de les haricots. Et on nous punissait si on parlait français à l'école. Je devais me mettre dans un coin sur une patte comme un oie parce que j'avais parlé français à l'école. T'as pas réchauffé ton il faudra réchauffer ton alligator ou t'as pas
fini? Non, mais vraiment, j'ai surprimé, c'est meilleur. Tu veux goûter un petit brin de jambes à la gueule, l'alligator, maintenant, en espérant?
En 1970, plus d'un million de Louisianais parlaient le français couramment. Aujourd'hui, il ne serait plus que 100 000. Alors pour redonner vie au français, il existe dans le système scolaire des programmes d'immersion en langue française. Avec Joseph Dunn, membre du Conseil pour le développement du français en Louisiane, nous allons dans l'International School of Louisiana à la Nouvelle-Orléans.
Bon alors, on était sur les équations. Qui peut rappeler comment on reconnaît une équation?
On doit avoir l'x.
X,
c'est la variable.
C'est le gouvernement de la Louisiane et ses différentes paroisses ou villes qui ont décidé des cours en immersion française à leurs élèves. Donc il y a une trentaine de ces écoles à travers l'État. Et là, nous sommes dans un cours de maths avec un prof et des élèves. Et l'objectif de l'immersion, c'est d'apprendre à parler français par le biais des différentes matières. Les sciences sociales, les sciences, les maths, c'est à double tranchant vraiment. C'est de maintenir la langue française et c'est aussi ce côté réussite scolaire.
Je veux dire en addition par 1 qui va égal à 4.
Ah, et là tu divises maintenant.
Alors Louis Rembrandtley, vous faites la classe d'immersion en français.
Et depuis
la maternelle,
oui. Mes grands-parents étaient le Cajun et mes parents voulaient que je parle une autre langue.
Et vos grands-parents, ce sont des Cajuns, donc vos grands-parents parlent le français?
Le Cajun français, c'est un peu différent, c'est pas le vrai français.
Il y a une certaine artificialité à cela, mais quand même, on voit maintenant les gradués de ces programmes qui continuent en quelque sorte leurs études de français au lycée, à l'université. Et bon, c'est vraiment à eux d'être les porteurs de cette langue et de le faire avancer en Louisiane.
Allez, une autre équation maintenant.
Louis, les équations en français, c'est plus simple qu'en anglais?
Oui, j'ai toujours appris les équations en français et pas en anglais. Ça, c'est plus facile.
Après essayer de préserver la langage du Cajun.
Incroyable. Voilà, les francophones de Louisiane, reportage signé Stéphane Combe. Merci Stéphane et Nicolas, à demain.
À demain, Michael. We will
make America great again. Un jour, dans le monde.
I am your voice.
Sur France Inter.
Trump à la Maison-Blanche, notre rendez-vous du lundi en direct de Washington. Philippe Randé, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et ces derniers jours, mon cher Philippe, ont été marqués par la fin d'un terrible suspense.
Donald Trump a-t-il les enregistrements de ses conversations avec James Comey? La question directement liée à l'affaire russe a agité des dizaines de journalistes américains pendant un mois et demi. C'est Donald Trump lui-même qui a lancé le débat en insinuant le 12 mai dernier, quelques jours après avoir brutalement limogé James Comey du FBI, que James Comey, je cite, « ferait bien d'espérer qu'il n'existe pas d'enregistrement des conversations ». Opération diversion totalement réussie pour le président américain, puisque cette question sur les enregistrements a été posée à peu près 6742 fois aux différents points presse de la Maison Blanche. Tout ça pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout ça pour que Donald Trump, au bout de 41 jours de polémique, envoie un tweet, d'abord expliquant qu'il n'avait pas ses enregistrements, et puis sur Fox News, il a délaissé les 140 caractères de Twitter pour s'exprimer un tout petit peu plus longtemps.
Je n'ai pas d'enregistrement et je n'ai pas enregistré. Et ma version n'a pas changé, elle a toujours été bonne, ça a toujours été la vérité. Il n'y a pas eu d'entrave à la justice, pas de collusion, il y a eu des fuites venant de Comey. Robert Mueller est un homme honorable qui va trouver une solution honorable.
Robert Mueller, le procureur spécial à qui Donald Trump a fait un autre petit clin d'œil à la question de la journaliste de Fox News de savoir si Robert Mueller devait abandonner l'enquête. Donald Trump a répondu « C'est un très très bon ami de Comey, ce qui est très gênant. » Une façon encore pour le président américain de garder ce combat front contre front, parole contre parole face à James Comey, puisque manifestement l'un des deux a menti. Je ne résiste pas à vous citer la une du magazine Time avec la photo du procureur spécial Robert Mueller en noir et blanc, et ce titre, The Lie Detector, le détecteur de mensonges.
Alors donc Philippe, fin du feuilleton sur les enregistrements.
Alors ça, mon cher Nicolas, je parierais pas un repas dans le restaurant du Watergate Hotel avec vous sur ce sujet. D'abord parce que Donald Trump, en maître du teasing et du suspense, a précisé que certes, lui n'a pas d'enregistrement, mais qu'il ne sait pas s'il y en a. Et puis, certains démocrates ne veulent pas en rester là. C'est le cas d'Adam Schiff, il est chef de file démocrate à la commission du renseignement de la Chambre des représentants.
Ça ressemble à une volonté du président d'avoir voulu décourager James Comey de parler. Pourquoi a-t-il fait peur à Comey en disant qu'il y avait peut-être des enregistrements? Pourquoi a-t-il fait attendre le pays aussi longtemps pour donner une réponse après avoir suggéré qu'il avait fait des enregistrements? Et puis j'aimerais pouvoir croire que tous les tweets sont vrais, mais on a vu à plusieurs reprises que le président a tweeté des choses qui étaient en partie fausses.
Les soupçons, Philippe, d'ingérence russe dans la présidentielle reviennent comme un boomerang à la figure des démocrates.
Car le Washington Post nous a appris que la CIA, la centrale américaine de renseignement, avait averti Barack Obama dès août 2016 que des piratages du Parti démocrate avaient été ordonnés par le président russe Vladimir Poutine dans le but de nuire à Hillary Clinton pour la présidentielle du 8 novembre. Du coup, Donald Trump a envoyé un tweet à ses 33 millions d'abonnés en écrivant, je cite, « C'est un truc incroyable, s'ils avaient l'information, pourquoi n'ont-ils rien fait ?» Donald Trump qui nie que la Russie ait pu avoir un quelconque impact sur les résultats de l'élection.
En tout cas, cette affaire russe n'affecte pas la popularité, Philippe, de son parti. Hein.
Non, la preuve, le parti républicain a réussi son examen il y a quelques jours en Géorgie pour une élection législative partielle. Et pourtant, les démocrates ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour arracher ce siège. Rien n'y a fait. La candidate républicaine l'a emporté assez facilement. Et depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, son parti a remporté les 4 élections partielles, ce qui veut dire que sa base électorale reste solide, des électeurs qui, pour certains, était à Washington hier pour un rassemblement devant la Maison Blanche contre les violences politiques. Je suis allé les rencontrer. Ils étaient quelques dizaines, très remontés contre les médias américains, à l'image de Catherine, venue de Caroline du Nord pour l'occasion.
Il va être notre président pendant 8 ans. Il a fait tellement de choses depuis 5 mois. Et si vous allumez CNN, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez rien à part leur propagande. Oh, Trump ne fait pas de conférence de presse. Oh, qu'est-ce qu'il cache aux gens? C'est l'homme le plus puissant du monde. Respectons-le. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi ne font-ils pas des reportages honnêtes? C'est pour ça qu'ici, vous voyez des supporters de Trump de plus en plus remontés. Et oui, on est définitivement divisés. Je suis désolée que vous, les Français, vous deviez voir ça, mais c'est ce qui se passe ici en ce moment.
Et puis on vote pour finir cette semaine au Sénat, mon cher Philippe.
Et vous savez que Washington est connu pour son microcosme politique, ses centaines de lobbyistes, de staffeurs qui vont de bureau en bureau, de restaurant en restaurant pour négocier avec les membres du Capitole. Eh bien, Washington s'apprête à vivre des jours et des nuits de tractations, car ce texte sur la santé est capital pour Donald Trump. Il a promis de revenir sur l'Obamacare. Et après la Chambre des représentants, c'est maintenant au tour du Sénat. Le nouveau texte, un des secrets les mieux gardés des États-Unis, a été rendu public il y a quelques jours. Les débats devraient débuter aujourd'hui. Comme prévu, le projet de 142 pages prévoit de supprimer une taxe imposée aux foyers les plus riches par l'Obamacare. Seul problème, cette baisse des financements risque de priver des millions d'Américains de couverture santé. Du coup, sans surprise, les démocrates voteront contre. Mais là où ça se complique pour Donald Trump, c'est que sur les 52 sénateurs républicains, 5 pour l'instant ne veulent pas du texte, ce qui fait qu'en l'état, le texte n'aurait que 47 votes, alors qu'il en faut 50. Parmi les sénateurs récalcitrants, Dean Heller du Nevada.
Je ne peux pas soutenir un projet de loi qui prive d'assurance maladie des dizaines de millions d'Américains et des centaines de milliers d'habitants du Nevada. Ça ne protège pas les plus fragiles, les personnes âgées, les malades les plus graves et les personnes handicapées. Ce texte présenté aux sénateurs n'est tout simplement pas la réponse.
Le sénateur républicain du Nevada qui trouve que la réforme va trop loin, 4 autres frondeurs qui trouvent qu'elle ne va pas assez loin, sans compter les indécis. Bref, à l'heure qu'il est, lundi 26 juin, midi 53 heures de Washington, le vote du texte initialement prévu ce jeudi paraît compromis.
Philippe Randet en direct de Washington, merci. On vous retrouve, mon cher Philippe, dans le journal de 19h pour évoquer le décret anti-musulman de Donald Trump et la décision de la Cour suprême des États-Unis. À suivre, Anthony Bélanger, après les Stones. Anthony Bélanger sur la table du studio de France Inter pour danser sur les Stones.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Bonsoir mon cher Anthony.
Vous en rêveriez.
Hein. Je rêve. Ouais, ouais.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Direction le Pakistan, Anthony, où l'explosion d'un camion-citerne a causé la mort de plus de 150 personnes dimanche.
Et la première question qui vient à l'esprit est tout bêtement, comment est-ce possible? Surtout que les 150 victimes, et les dizaines de blessés bien sûr, que vous évoquiez, Nicolas, ne sont qu'une estimation appelée à être réévaluée, peut-être de beaucoup. Eh bien tout a commencé par un bête accident dans la ville Punjabi d'Ahmedpur, East, non loin de la frontière indienne. Un camion-citerne rempli à bloc verse sur le côté et l'essence commence à se répandre. La suite est désespérante. Le camion n'a pas explosé de suite. Bien au contraire, il a explosé plusieurs heures après l'accident. Mais la nouvelle s'est répandue en ville que de l'essence gratuite coulait à flot d'un camion renversé. Aussitôt, des centaines d'habitants se sont précipités sur les lieux avec des casseroles, des marmites, des bassines, tout ce qui pouvait servir à recueillir le précieux liquide. La police a été rapidement débordée. La suite, vous l'imaginez aisément, c'est l'étincelle d'un véhicule véhicules qui passaient à côté parce que la circulation était en effet à peine empêchée. Est-ce une cigarette mal éteinte, comme la rumeur semble l'indiquer? En tout cas, une énorme boule de feu s'est formée qui a tout ravagé.
Je vous sens triste et même en colère, Anthony, quand vous nous racontez ce fait divers atroce.
Comment ne pas l'être? Tout est sinistre dans cette histoire. La pauvreté crasse qui pousse des centaines d'habitants à se précipiter vers le danger. La police incapable d'intervenir correctement et le bilan affreux, dantesque, digne d'un état failli. Et je n'utilise pas cette expression au hasard. Depuis une dizaine d'années maintenant, le Pakistan est classé par un think tank américain, le Fund for Peace, au rang des 10 à 15 pays les plus fragiles de la planète. Fragile étant évidemment l'euphémisme de failli. Et c'est vrai que le contraste avec le voisin indien est désormais saisissant. Alors même que la fin du Ramadan au Pakistan était donc marquée par cette tragédie épouvantable, les États-Unis mettent les petits plats dans les grands pour accueillir Narendra Modi, le nouveau best friend de l'Occident et de Donald Trump, le premier ministre indien qui, il y a quelques jours à peine, était littéralement main dans la main dans les jardins de l'Élysée avec notre président. Personne n'imagine la même scène avec le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif.
Et vous sous-entendez que le Pakistan le mérite pourtant?
C'est vrai, mais les indicateurs sont donc malgré tout dévastateurs pour le Pakistan. Moins de 1% des Pakistanais paient l'impôt et depuis des décennies, le pouvoir n'est jamais parvenu à faire payer les richissimes propriétaires fonciers qui forment, vous savez, l'élite arrogante du pays. Résultat, le pays dépense moins de 1% de sa richesse en santé publique, une misère, une aumône. L'éducation est tout aussi faillie puisqu'à peine plus de la moitié de la population sait lire et écrire, un taux inférieur à beaucoup de pays africains. Quant à la gouvernabilité du pays, eh bien, elle n'a jamais été aussi faible. Des pans entiers du territoire échappent au contrôle gouvernemental. Et à l'inverse, lorsqu'une province réclame plus d'autonomie, comme le Baloutchistan, Islamabad envoie des milliers de soldats, des troupes, des espions. Résultat, une véritable guerre civile larvée et une contestation permanente, notamment des fondamentalistes, talibans en tête. Et oui, parce que pour compléter ce sombre tableau, il faut ajouter le rôle sinistre de l'armée et des services secrets. Les deux forment le véritable pouvoir au Pakistan, les politiques passant leur temps à négocier des bribes de pouvoir ou des prébendes avec les militaires et les espions. Ce sont eux qui contrôlent tout et qui depuis des années jouent avec le feu fondamentaliste d'abord, avec pour résultat plus de 60 000 victimes du terroriste en 15 ans. Le feu nucléaire ensuite, le Pakistan possède une centaine de bombes et tous les spécialistes vous diront que le vrai danger n'est pas tant iranien, mais bien pakistanais.
Anthony Bélanger, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Les pouvoirs publics sont totalement mobilisés. Démonstration de force ce week-end à Paris avec Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et une flopée de sportifs. Il y a peu de débats sur l'opportunité ou non d'organiser ces Jeux. Qu'en pensez-vous? Y êtes-vous favorable ou pas? 01 45 24 7000.